se reconnaît en écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue en ce 1er janvier dans CO2 de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui va prendre le temps, mais vraiment encore plus aujourd'hui, de ne pas aller vite. À la technique, il y a Ludovic Asselot, Séverine Bouvard nous assiste, sans oublier Jean-Christophe Pinaza, et c'est Fabrice Lègle qui réalise cette émission. Alors, une petite humeur, on va dire, 1, 2, 3, c'est parti, l'année 2011 pour nous, ce sera le tour du soleil en 365 jours, à cheval sur notre petite planète, dans la pampa des grands espaces, des idées nouvelles à faire émerger, d'un monde moins ravageur de nature. Un voyage à travers les jours, les nuits et les saisons. Et tenez, la lumière qui revient déjà, et oui, elle qui s'était recroquevillée, pressée qu'elle était de se glisser dans nos draps le soir, et pas gênée d'y flâner encore au petit matin. Et bien là, ça y est, on est sur l'autre versant du soleil, et pour la grande traversée d'une année à l'autre, et bien on s'est offert, évidemment, peut-être hier soir, des cadeaux, des chocolats, de l'eau de vie, une écharpe, un vaccin contre la grippe, très tendance ça aussi, oui, l'interview du ciel en hélico, ou bien le prochain livre de Nicolas Hulot. Retenez-moi, tellement je sais que je n'irai pas à la présidentielle en 2012, où je fais un malheur. Alors en ces temps de retour de manivelles climatiques et de grand froid, c'est nouveau, les rois mages nous apporteront du sel et du glycol. Et oui, le glycol, un nectar bientôt plus précieux que le caviar, en spray, en gel et en bidon. Le glycol cuvée 2011 par Aéroport de Paris, c'est le cadeau tendance pour dégivrer l'avion des vacances à l'autre bout du monde, ou bien les vitres de la voiture qui nous ramène à la maison. Attention, ne convient pas pour réveiller les neurones engourdis. Et puis bien sûr, le sac de sel. Waouh ! Alors nos rois mages, avec l'or, la myrrhe et l'encens, ils peuvent aller se rhabiller. Donc deux cadeaux qui témoignent plus que tout cette année l'amour que l'on vous porte. Ah oui, puis j'oubliais. Dans la trousse du parfait petit terrien, sans peur et sans reproche, impatient d'affronter les défis qui s'annoncent, on vous met une double dose d'optimisme. Oui, 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 faut vraiment ça. Parce qu'on y croit à l'avenir de cette espèce de grand singe égoïste mais sympathique qui est la nôtre. Alors dans cette émission, on va retrouver Jean-Marie Pelt dans son jardin d'hiver. Jean Ferrat à Entraigues, que je vous avais fait redécouvrir, c'était le mois de mars dernier. Et puis nous irons aussi sur les pentes du Mont Lozère pour découvrir cette montagne tutélaire en raquette. Et parce qu'un individu qui aime la musique ne peut pas être foncièrement mauvais, on vous propose de commencer l'année en chanson. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Et surtout, très belle année à tous. Quand je t'ai vu déposer tes bouteilles plastiques dans la poubelle jaune, j'ai eu le coup de foudre. Le lendemain, on s'est donné rendez-vous près du bac à verre, puis à la déchetterie, près des huiles usagées. C'était magnifique. J'ai tout de suite su que c'était toi et le début d'une grande histoire. Maintenant, c'est toi qui vides la poubelle, mais l'amour est plus fort que tout. C'était il y a un siècle, un an, une éternité. Avec ton sac de poubelle bleue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laure Ancin. Je dois me tromper de chanson, là.
Chanson d'amour.
un peu plus de 14h, j'ai presque envie de vous souhaiter un excellent réveil, hein, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Je vais vous emmener, vous allez vous couvrir parce que je vais vous emmener dans la neige avec une pelle et peut-être un sac de sel. Et on va retrouver Jean-Marie Pelt chez lui en Lorraine. Ah ben je vais rejoindre Jean-Marie dans la neige, qui est en train de fondre donc chez lui en Moselle. Voilà, ça y est Jean-Marie, j'ai un peu de mal à venir jusqu'à vous parce que nous sommes quand même en pleine nuit. Noël est passé et donc on se retrouve chez vous dans votre jardin. Donc faut faire attention où on met les pieds. Hein,
oui, voilà. Mais c'est tout gonflé.
Ouais.
C'est l'herbe est toute gonflée par la neige.
Ouais, ouais, ouais.
Ça, c'est vous, c'est l'étoilé, hein.
Alors là, c'est drôlement bien oui, parce oui. que
c'est miraculeux.
Oui.
Il a fait mauvais pendant longtemps et on a l'incroyable chance d'avoir un ciel étoilé comme chaque fois qu'on fait notre promenade dans le jardin.
Oui.
C'est étonnant, hein.
Alors ça nous renvoie peut-être aussi à une notion qui vous est chère, c'est-à-dire la diversité, alors diversité humaine, diversité végétale, et puis aussi diversité des étoiles.
Oui, parce que j'ai inventé un mot,
ah.
Cosmodiversité, parce que les astrophysiciens s'aperçoivent qu'en fait, il n'y a pas deux astres pareils dans l'univers. Dans l'univers, il y a beaucoup de monde. Dans notre galaxie, il y a 234 milliards d'étoiles.
D'accord. Et on a combien de galaxies ?
130 milliards.
Ah oui.
Bon. Alors, on va en tirer comme conséquence que nous sommes tout petits, sous le grand ciel étoilé. Et même notre système solaire, en fait, il est tout petit. Et nous sommes très fiers de notre système solaire. Alors là, j'ai repéré un astre très extraordinaire. Vous levez le regard au ciel, et bien vous ne le voyez pas. Parce que c'est une naine. On appelle ces astres des nains ou des naines. Ce sont des petites planètes. On a classé dans ce groupe Pluton. Pluton qui était jusqu'à très récemment la plus grosse des petites planètes, qui ne doivent plus s'appeler planètes. Pluton a été rayé de la liste des planètes et il s'appelle maintenant une naine. Et ben voilà, alors Pluton, il a été détrôné par Xéna, qui est plus gros que Pluton, mais qui est beaucoup plus loin que Pluton, et qui tourne autour de la Terre en 560 ans. Pluton il tourne autour de la Terre en 260 9 ans.
Oui, c'est rapide.
Donc on attend de voir venir quand on est sur Pluton. Mais alors, il y a un astre qui est un phénomène extraordinaire. Il porte le nom de la déesse des océans glacés des Inuits, qui étaient les anciens Esquimaux, on disait autrefois Esquimaux, c'est Sedna. Alors Sedna, quand Sedna est tout près du Soleil, eh bien, elle est 76 fois plus éloignée du Soleil que nous.
Oui.
Et quand Sedna est très loin du Soleil, elle est à 1018 fois plus loin que la distance Terre-Soleil. Donc Sedna va très loin. Elle fait le tour du Soleil en 10 000 ans. C'est-à-dire que la dernière fois qu'elle est passée près de la Terre, c'était il y a 10 000 ans.
On commençait à peine l'agriculture.
Et en fait, elle va revenir près de la Terre dans 67 ans.
D'accord.
Mais on ne la verra pas, cette naine, parce qu'elle sera quand même à 76 fois la distance de la Terre au Soleil, donc très très loin. Mais moi, j'ai bien aimé Sedna parce que c'est une planète, ou plutôt une naine, qui est audacieuse, parce qu'elle va très loin. Très loin. Et elle prend tout son temps pour faire un tour autour du Soleil. Voilà.
Moi, je regarde le ciel avec comme ça un peu de poésie. Je me dis, bon, on voit cette voie lactée. Là, il y a peut-être aussi vos constellations préférées, quoi.
Orion,
ah oui.
Avec l'extrémité d'Orion, vous voyez, nettement en dessous d'Orion, vous voyez cette étoile très forte qui scintille un peu, c'est Sirius.
Ouais, ouais.
C'est une des étoiles qu'on ne voit en fait qu'en hiver.
En hiver, celle-là.
Orion aussi, on ne le voit qu'en hiver. Et le grand triangle de l'été, comme son nom l'indique, on le voit qu'en été. Oui. Parce qu'il bascule vers le nord à cette période de l'année. Et là, nous sommes pratiquement au solstice d'hiver.
Même en hiver, ce pays est beau, même si les oiseaux sont de proie. Merveille sur terre, qu'un champ plein d'agneaux, dont la laine tient chaud dans le froid. Derrière les nues, derrière les nuées, derrière les nuages. Hiver astral, les étoiles sont loin et le vide est interminable.
Mais ce qui veut dire que maintenant, on est en train de se dire qu'on va avoir nos jours qui vont rallonger.
Ah oui, les jours vont rallonger. Et en réalité, la nuit de Noël, le 24 décembre au soir, les Romains fêtaient le soleil invaincu, sol invictus. Le soleil était invaincu parce qu'il allait recommencer à monter dans le ciel. Et on a choisi cette date pour fêter la naissance du Christ, parce qu'on ne sait pas le jour où le Christ est né, mais on a choisi cette date parce que les Romains considéraient que c'était le retour à la vie. Le retour à la vie grâce à la montée en puissance de nouveau du soleil. Sol invictus, c'est devenu Noël.
Et ces rythmes-là, Jean-Marie, on les ressent dans le corps ?
Ah oui, les anciens considéraient que la période qui commence avec le solstice d'hiver et qui continue, disons, jusqu'à ce que le soleil soit nettement de nouveau remonté et que ça soit perceptible avec la longueur des jours et des nuits, ils appelaient ça les 12 jours qui correspondaient à 12 mois de l'année.
D'accord.
Et ils les appelaient les 12 petits mois. Et pendant cette période des 12 petits mois, la vie devait être tout à fait calme. Les roues ne devaient pas tourner. On ne devait pas aller dans les champs. On devait rester au bord de l'âtre, bien au chaud. Et voilà que maintenant, c'est exactement le contraire.
On se repose en été.
On se repose en été et on s'agite en hiver. Et quand on a un peu de vacances en hiver pour Noël, alors on court au sport d'hiver et on s'agite encore plus. Parce que plus il fait froid, plus on s'agite.
Jean-Marie, là, de l'association d'idées, en regardant le ciel, il y a une plante qu'on appelle l'étoile de Noël, qui est aussi la rose de Noël. Alors, parlez-nous-en, pourquoi on les nomme ainsi ?
Alors, la rose de Noël, c'est un hélébore, en réalité.
Oui.
C'est une plante qui a cette rare propriété, elle est toute seule dans son cas, de faire ses fleurs en plein hiver.
Mmh.
Et c'est la raison pour laquelle elle est souvent plantée dans les cimetières. C'est là qu'on la voit le plus souvent. Alors à côté, il y a les pensées aussi qui arrivent à résister sous la neige. Peut-être qu'elles méditent quand elles sont sous la neige, elles pensent. C'est plutôt ça qu'on appelait les pensées. Alors l'étoile de Noël, c'est le poinsettia, ça c'est autre chose. C'est cette plante qui a à l'extrémité des feuilles d'un rouge vif, un peu plus bas sur la plante, des feuilles moitié rouges, moitié vertes, et puis tout en bas, des feuilles vertes. Alors on a dit que les écolos purs et durs étaient comme les pastèques, ils étaient rouges dedans et verts dehors. On aurait pu dire aussi qu'ils étaient comme les poinsettias. Et alors c'est une très belle plante qui n'est pas d'origine de nos pays. Elle est extrêmement abondante, par exemple, aux Canaries, où elle enflamme complètement le paysage en hiver. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile de Noël.
Le Père Noël là, qui est arrivé chez vous, je pense qu'il est arrivé aussi chez vous, il a atterri où là
cette... Il est atterri sur notre place de compost parce que le Père Noël est une ordure.
Ça, oui. Ah oui, d'accord.
Non, c'est ce qu'on a dit au cinéma. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'est ça, oui,
oui.
C'est ça. Alors là, c'est la période où la végétation est au repos.
Complet.
Hein. Donc là, c'est,
complet.
C'est... Elle fait pas comme nous, quoi. Ça gîte
non,
pas.
Ça bouge pas.
Ouais.
Ça bouge pas.
Et donc, elle a déjà préparé ses bourgeons pour la suite.
Tous les bourgeons sont en place. Ils vont tous éclater à partir du mois de mars. Et puis, il peut se passer que l'hiver ne soit pas froid. Auquel cas, ils sont capables, ces bourgeons, de péter déjà à la fin du mois de février. Encore que le mois de février est censé être le mois le plus froid.
Ouais.
C'est au printemps que la sève monte, celle qui alimente les plantes. Sacré printemps, plus que d'habitude, une plénitude en attente. C'est des nimbus, cumulonimbus, venus de Vénus dans les strates. Pluie éclaircie, un effet de pompe sur les composantes chlorophylles.
Alors toujours Orion au-dessus de nos têtes. Votre antenne de télé là qui clignote, c'est pas des étoiles. Hein.
Non, c'est l'antenne de Luttange qui nous apporte maintenant la TNT. Je suis tout content, moi qui suis très moderne, d'avoir la TNT. Ça me permet de voir sur mon écran des quantités de petits carrés, de petits rectangles comme ça. Et puis la voix masculine devient féminine subitement. Tout d'un coup, j'entends plus rien du tout. Puis tout d'un coup, il y a marqué pas de signal momentanément. Alors j'attends, puis ça revient, puis ça repart. J'ai dit, je suis très content d'avoir la TNT. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Avant, ça marchait. Maintenant, ça marche plus.
Mais oui.
Bon, ben c'est le progrès. Tout va de mieux en mieux. Je plaisante. Non, je vais être sérieux. Alors, je vais être sérieux et je vais dire ceci. Plus la technologie s'améliore, plus ce service se détériore. Ça, c'est un aphorisme très important. Au fur et à mesure que la technologie s'améliore, qu'elle est de plus en plus sophistiquée, tout devient de plus en plus fragile et à la fin, ben, ça marche plus.
Jean-Marie, toujours dans votre jardin. Vous sortez pratiquement d'ailleurs tous les jours ici, et même l'hiver, enfin je sais pas qu'est-ce qui vous inspire, parce qu'on n'est pas évidemment dans la flamboyance, mais vous avez quand même besoin d'aller voir vos arbres, d'aller voir le champ qui est juste à côté.
Je m'inspire, dès que je les ai vus, je rentre vite m'installer devant la cheminée en me disant « je reviendrai la prochaine fois, tenez bon ». Et d'ailleurs, ils tiennent bon.
Hein. Ah oui.
Ils sont adaptés au froid. Et puis, il y a le petit chat qui est là aussi. Alors, le petit chat, il n'a pas été élevé par nous, donc il a de mauvaises habitudes. Il fait pipi sur le tapis. Alors, du coup, on le met en fuite. Mais il a un grand défaut, ce chat. Moi, je l'aime beaucoup, c'est Félix. C'est notre bonne Madame Molle qui est morte maintenant, qui l'avait adopté. Ouais. Mais il a un grave défaut. Il ne supporte absolument pas que je lise. S'il est sur mes genoux et que je lis, il donne des coups de tête contre le bouquin pour que je le caresse.
Mais ça, c'est pas,
et même, si je tiens le livre avec une seule main et que je le caresse avec l'autre, ben ça lui suffit pas. Il veut les deux mains.
Bien sûr.
Voilà, ça c'est notre chat. Non,
c'est pas que le vôtre, hein, je vous rassure.
Ils sont tous comme ça.
Ils sont quasiment tous comme ça.
Ah, ben voilà.
Ah, oui, non, c'est le chat, ça.
C'est le chat.
Ah, non, c'est pas votre chat Laurent qui est.
Bien mon chat.
Je comprends bien. Vous avez parlé de la cheminée, on va rentrer. On va donc laisser ce ciel qui est semi-étoilé, mais qui quand même nous a
permis. Il étoilé tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on voyait à peu près Orion.
Oui.
Et là, c'est
Orion plus... se cache.
Orion se cache. Et on va en faire autant.
On va faire autant.
Voilà. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter
On peut souhaiter, premièrement, qu'on ne dise pas moi d'abord. Et qu'on pense aussi aux autres avec de l'amour pour eux. Et les autres, c'est le prochain. C'est pas celui qu'on repère sur Internet et qui habite en Patagonie. D'accord. Et qu'on va aller voir avec Ryanair, parce qu'on paiera 1 € pour aller en Patagonie. et on dépensera une quantité effroyable de carbone, plus que tout le temps qu'on a roulé en voiture toute l'année. Bon. C'était pour dire qu'il faut aussi garder la proximité du prochain, celui qui est autour de nous. La deuxième
pour relocaliser le prochain.
Relocaliser le prochain. Très belle expression. La deuxième idée, c'est que c'est pas la peine de faire comme le voisin par mimétisme. Ça, c'est une force effroyable dans l'humanité. Tout le capitalisme marche que sur cette idée-là.
Le copier-coller, l'imitation.
Oui. On fait tout pareil que le voisin. Si on achète un engin dans la maison à côté, il faut absolument que j'achète le même engin, tout à fait cessant. D'ailleurs, la pub le dit, il faut obéir à la pub. Bon, la troisième idée, c'est qu'il ne faut pas être jaloux de ceux qui ont l'engin si on ne l'a pas. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin.
Bon, c'est très très bien. Et puis on va se retrouver l'année prochaine, on va dire ça.
Oui, l'année prochaine dans le jardin.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. À bientôt.
Allez. Au revoir.
Et on rentre. On y va.
J'en ai marre d'être un branleur, de me lever à pas d'heure, de faire croire que je suis chanteur, à défidant de bar mon fumeur. J'en ai marre d'être un bluffeur, un épateur de petites sœurs, les mêmes chaussures, les mêmes.
passe et laisse place à la classe. Minuit sonne sur mon téléphone, pas ma vie d'un coup devient énorme. Quand dans la nuit je danse, je ne regrette pas d'avoir choisi la classe. Tout ça n'est qu'une farce. J'avoue, j'ai choisi cette vie.
Mais non, mais faut pas s'excuser de se lever à pas d'heure. C'était Antoine Léon-Paul, un autre homme choisi par Muriel Pérez et Fabrice Lègue, notre réalisateur. Deuxième chapitre de cette émission, Jean Ferrat. Ah oui, non, vraiment, on va se faire plaisir en le retrouvant. Je vous avais passé donc ce reportage au mois de mars, lorsqu'il était décédé. Et donc, c'était au printemps 1996. Ferrat était là comme convenu. Il a vu arriver un cycliste avec sa tenue relativement ridicule, avec son petit magnétophone. Il n'y avait pas de promotion à l'horizon, loin de là. Et avant de monter donc sur le haut plateau de l'Ardèche, on s'est posé au bord de la Volane. Alors là, nous sommes dans cette Ardèche cévenole, hein, avec des pentes qui descendent des hauts plateaux, et puis avec un pays quand même qui est assez rude, avec des torrents, des eaux, des truites, des châtaigniers. C'est un pays de volcans, hein, c'est les plus vieux d'Europe, qui n'ont pas beaucoup de nervosité, hein, je vous rassure. Et puis, il faisait beau. Ferrat était dehors. Il n'écrivait pas parce que c'était aussi un buveur de soleil. C'était un lézard de la rime. Alors parfois on se disait vraiment vivement le froid et la pluie qui rentrent chez lui, qui prennent son stylo. Donc on retrouve Ferrat qui d'ailleurs est l'objet aussi d'un article cette semaine dans Télérama. Jean Ferrat chez lui à Entraigues. Ah, alors là, Jean Ferrat, nous sommes ce matin avec du soleil. C'est vrai qu'il y a un bon froid de printemps quand même, hein, faut pas se tromper. Il fait pas encore très très chaud chez vous ici en Ardèche. Mais le temps est quand même un petit peu assez clément, hein, sur la place d'Entraigues.
Ah ben, il était plus clément hier, parce que hier on était en chemise pratiquement. Aujourd'hui, j'ai un pull et une veste et j'ai pas trop chaud là. Mais alors, la place est à nous. Hein,
personne.
La place d'Entraigues est à nous.
Personne.
L'agora nous appartient.
Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'agora. C'est-à-dire qu'il y a la palabre, les gens discutent, c'est là qu'ils se réunissent, qu'ils échangent.
Ah ouais, bah bien sûr. Et puis c'est là où ont lieu les dernières tragédies ardéchoises modernes. Je veux parler des parties de pétanque.
Ça, c'est grave, ça.
Ah,
ça, c'est grave.
Là, quand les enjeux sont lancés, quand les défis sont lancés des jours, des semaines, voire quelques mois avant, et que quand le moment arrive, il règne une tension.
Bonjour madame.
Bonjour madame. Il règne une tension extrême dans les camps.
Oui.
Ouais. Et c'est là où la moindre chose, ce qu'on appelle la musique même de la pétanque s'élève vers le ciel.
Oui. Ouais. Ça c'est beau ça. Moi, je ne sais pas quoi rajouter derrière. D'ailleurs, on va rien rajouter derrière ça. Vous n'avez jamais été humilié à la pétanque, non?
Ah si, si.
Si, ah,
si.
Oui.
Vous savez, ici, comme dans tout le Midi, on baisse Fanny.
Oui.
Mais ce n'est pas théorique seulement. D'ailleurs, on vous amène une effigie d'une personne dévêtue dont
bien sûr.
Il faut...
Baiser l'arrière-train.
Voilà, baiser l'arrière-train, à genoux, sur la place. Alors, évidemment, on essaie de
c'est
le
faire.
C'est
un pays de rituels et traditions, ensemble.
On essaie de le faire quand il n'y a pas trop de monde, mais quand ça arrive un jour de 15 août, ça, c'est... Évidemment, on est la risée.
On peut avoir écrit les plus belles chansons du monde, peu importe. Hein,
on est la risée générale. Oui.
Sans que je puisse m'en défaire, le temps met ses jambes à mon cou. Le temps qui part en marche arrière me fait sauter sur ses genoux. Mes parents, l'été et les vacances, mes frères et sœurs faisant les fous. J'ai dans la bouche l'innocence des confitures du mois d'août. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance.
Jean Ferrat, vous avez écrit une chanson qui s'appelle « Nul ne guérit de son enfance ». Qu'est-ce que vous emportez avec vous, toujours, depuis votre enfance ?
Moi, je crois que j'emporte le souvenir de l'amour, en fait. De l'amour maternel, paternel, l'amour qui régnait dans ma famille et qui a été une chose très précieuse pour moi.
Alors malheureusement, votre père a disparu, donc on le sait, pendant la guerre, a été déporté. Vous étiez jeune, vous aviez 10-11 ans. Qu'est-ce qui reste de votre père encore aujourd'hui ? Je sais que vous étiez petit, mais vous avez encore le souvenir de votre père ?
Oui, je crois que c'était un homme bon. Ça paraît tellement bizarre à notre époque de faire appel à la bonté ou de... que j'ai l'impression que les gens, ils ont presque honte maintenant de faire appel à cette notion. Hein. Mais moi, je pense que c'était un homme profondément bon et qui, autour de lui, répandait cette bonté et cette générosité. Et je crois que, sans doute inconsciemment, ça a été pour moi quelque chose qui est toujours présent.
Vous avez toujours aimé et chanté les femmes. On pense évidemment entre autres à La femme et l'avenir de l'homme, mais il n'y a pas que cette chanson-là. Est-ce parce que vous avez été élevé beaucoup par elle ?
Ah oui, ça certainement. J'ai été élevé, c'est vrai, par plusieurs femmes. Ma mère, ma tante, ma sœur. En même temps, parce que j'étais le plus jeune de la famille. Alors j'ai bénéficié de cet environnement privilégié et qui m'a appris beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous ont appris, par exemple ?
D'abord, l'amour. C'est, j'y reviens toujours, mais...
Mais tant mieux.
Je crois que c'est une chose primordiale, c'est une bonne chose. Et qui m'a été dispensée généreusement. Et je crois que je dis toujours que l'équilibre, si je peux dire que j'ai un certain équilibre, c'est vrai, vient de cela. Dans mon enfance, dans ma jeunesse, malgré les choses... dures et très pénibles qui se sont passées. Voilà, je garde ça comme un acquis, très exceptionnel aussi, parce que malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dire la même chose.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie.
Jean, vous avez plutôt le goût de la campagne, mais le goût du lieu.
Je crois que j'ai les deux, certainement. J'ai le goût de la campagne. Tout le monde sait que quand on est citadin, on aime partir... la plupart, hein, bien sûr, il y a des gens qui ne respirent que sur le bitume. Mais quand même, je crois que c'est l'exception. Alors, j'aime bien, j'ai toujours aimé partir dans des lieux campagnards, dans le sud, à la mer, etc., à la montagne aussi. Mais je suis aussi, et peut-être surtout, frappé par certains lieux, comme je l'ai été, si vous voulez, en France, et puis aussi à l'étranger, quand je vous dirais Sienne, oui. La ville de Sienne, en Italie, et sa place qui a un côté magique. Vous savez, j'ai rencontré, quelquefois rarement, ces lieux, comme l'Alhambra de Grenade ou le quartier de l'Albaïcine qui est en face, où on a l'impression qu'on ne peut rien dire. On arrive là, on s'assied, et il y a quelque chose de magique qui se dégage. Et j'avoue que c'est une chose extraordinaire qui peut vous arriver. Oui. Ça m'est arrivé 2-3 fois.
Et c'est arrivé aussi en Ardèche en 64 ?
J'ai pas eu le souffle coupé comme dans les lieux dont je viens de vous parler, mais j'ai pas hésité une seconde. J'ai visité ma maison à 10h du matin, à 10h10, j'avais dit je vais vivre là.
J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends, j'entends dans le grenier, chanter, chanter mon châtaignier.
L'Ardèche est un pays pauvre, avec ce que ça comporte de chaleur, la chaleur humaine.
Bien à l'abri dans ma soupente, moi j'entends chanter la charpente, ce n'est pas du bois vermoulu.
J'ai senti ça quand je me suis installé dans l'Ardèche, particulièrement en Trègue, où là il y a une tradition très ancienne, l'insoumission à l'ordre établi, et c'est un peu un mystère, parce que à Montreuil, si vous voulez, il y a eu deux conventionnels qui ont été élus pendant la Révolution française, ce qui est assez extraordinaire. Après, il y a toujours eu un état de résistance de la part de la population locale là, à l'oppression. Donc vous voyez, il y a un esprit là qui me plaît et qui fait qu'on on s'est trouvé naturellement aussi. C'est arrivé comme ça. Je suis arrivé dans ce pays et j'ai trouvé cet esprit-là, ce qui est miraculeux. Pour un peu, on croirait au ciel.
Entraigue, il faut quand même le rappeler, ça veut dire entre les eaux.
Oui, oui, parce qu'on est dans une région qui s'appelle la Cévenne ardéchoise et qui possède par là même les caractéristiques des Cévennes, c'est-à-dire un terrain granitique, des pentes abruptes, et au creux de ces pentes, de l'eau, des torrents qui courent et qui vont vers l'Ardèche. Et c'est un pays très, très, très vivant de ce côté-là, parce que en même temps, les reliefs sont à la taille de l'homme, à la mesure de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont été travaillés d'ailleurs. Et ça rend le paysage vivant, parce qu'on sent que les hommes ont vécu là depuis des millénaires.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps? Enfant, enfant, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Jean, on a parlé de l'eau, il y a presque un personnage, je parle bien de personnage qui est important ici, c'est le vent. Et ce vent, comment on vit avec lui, avec entre autres cette burle qui est ce vent du nord, qui vient s'enrouler, qui vient parfois se fracasser sur les montagnes. Parfois on a peur du vent ici.
Oui, ça c'est une chose qui ne me plaît pas beaucoup, le vent. C'est personnel bien sûr, mais c'est un phénomène qui m'énerve parce que ça déstabilise le vent, ça secoue les portes, les fenêtres, ça fait bouger les tuiles. On se dit, oh, attention, il y a une pierre qui va tomber, il y a les portes qui vont claquer, les volets, etc. Et quand on est dans son lit et qu'on entend la burle souffler d'une manière terrible, on est comme dans un bateau dans la tempête. Je dois dire, ça m'est pénible. Et souvent, ici, on est la proie des vents. Le plus violent, c'est l'équivalent du Mistral, qu'on appelle la bise ou la burle. Et puis, il y a aussi alors le vent différent qui vient du sud, le vent mauvais, et qui apporte la pluie et les grosses précipitations. Quand il y a des grandes inondations au printemps ou à l'automne, vient de ce vent qui amène aussi la neige l'hiver. C'est un pays âpre, dur. Alors, en même temps, il y a une sorte de générosité qui se dégage de beaucoup de paysans de l'Ardèche. En même temps, ils sont pas faciles à gagner, si j'ose dire. Il y a toujours une sorte de réserve au deuxième, troisième degré qui se produit. Enfin, je sais, par exemple, moi, ça fait 30 ans que j'habite ce pays, mais je ne serai jamais du pays.
C'est ça.
Oui. Et je trouve ça normal, en plus. Je suis le chanteur, certainement.
Oui.
Bien qu'il m'aime. Il m'aime bien, mais bon... Et puis, c'est vrai. J'ai adopté ce pays si ce pays ne m'a pas adopté.
Aujourd'hui, quel avenir pour ce coin d'Ardèche ?
C'est très difficile, comme tous les pays de moyenne montagne et des pays où la grosse production n'est pas envisageable.
Rebelle et soumise, paupières baissées, quitte ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise et le temps pressé, c'est parti remise pour aller danser.
Il faut maintenir absolument une vie paysanne dans ces régions. Évidemment, il faut maintenir à tout prix les caractères qui font la beauté et la rareté de ces lieux, parce que de plus en plus, les gens qui sont concentrés dans les cités auront besoin de se retrouver dans ce climat, parce que les gens ont besoin de racines, ils peuvent pas vivre dans des lieux qui sont pas faits pour l'homme.
Quand on voit maintenant à un autre niveau les problèmes, on parle d'écologie, mais le problème se pose en Ardèche depuis longtemps et il va se poser de plus en plus. Je veux dire, il faut maintenir à tout prix, dans ces pays a priori qui sont pas rentables pour la grosse production, une présence paysanne effective et qui garantissent, si vous voulez, l'écologie d'un pays. Je veux dire, sans ça, le centre de la France va devenir un désert.
C'est une petite faveur. Est-ce que vous pouvez juste nous fredonner le refrain de la montagne ici, sur la place d'Entraigues ?
Alors, pas toi ?
Ah, si vous voulez.
Pas même que la montagne est gento, comme un prudence immagino. En vega un vol di rondero, che l'automne vient d'arriver.
À bientôt, Jean-Ferrat.
Au revoir.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol di rondero, que l'automne vient d'arriver.
Alors je ne sais pas si on a tous quelque chose de Tennessee en nous, mais je suis à peu près certain qu'on a tous quelque chose de Jean Ferrat. Et après l'Ardèche, troisième volet de cette émission, comme vous êtes à peu près un peu mieux réveillé là, on va dire, après la neige de Lorraine chez Jean-Marie Pelle, une autre neige, bah oui, cette saison, on va aller du côté du Mont-Lozère, donc c'est un département qui est juste à côté pour une autre balade. Tombée de la nuit, Mont-Lozère, dans le département du même nom, avec des raquettes aux pieds,
Donc si vous aimez le grand air, et ben vous nous suivez. D'autant qu'on a un guide qui connaît quand même très bien son affaire, c'est Hugues Paris. Et alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce mont Lozère, qui d'ailleurs on va le rappeler, ce département a pris le nom d'une montagne alors que très souvent il prend le nom d'une rivière. À quoi ça ressemble ce mont Lozère ?
Ah, le mont Lozère, c'est une montagne complètement mythique, parce qu'en fait c'est une grande barrière avant. Ouais. Avec des modes d'élevage, une tendance laitier sur le versant nord et versant sud, beaucoup de vaches à viande.
Ouais. Alors allez pas trop vite Hugues, parce que vous vous êtes extrêmement affûté. Moi c'est le vélo, vous c'est la raquette.
Ah oui, ah oui.
Voilà.
Oui. On parle du silence de la neige, mais en raquette, il y a quand même un petit peu de bruit quand même.
Hein. Oui.
Les animaux sauvages quand même nous entendent de très très loin.
Destination l'ancien pays du Gévaudan, et on va se retrouver sur le mont Lozère dans le département donc du même nom, avec de l'air, de l'eau pure garantie. 77 000 habitants me semble-t-il, leur pays tout à fait extraordinaire, mais où certes il sera plus facile de se faire soigner par un vétérinaire que par un médecin. Alors quand on parle de Lozère, on pense à des grands espaces, à des causses, vidage de votre disque dur à stress personnel garanti là aussi. Vous avez au nord l'Aubrac qui est saupoudré de basalte et de neige aussi en ce moment. Vous avez le calcaire du Sauveterre et du Causse du Milieu, qu'on appelle le Causse Méjean avec son navet normand. Vous avez le schiste de la Cévenne au sud. Et puis, vous avez le granit du mont Lozère. Alors, c'est un lieu de tempête, de révolte, de guerre de religion entre les camisards et les catholiques. Et donc, il a un sommet qui culmine à 1700 mètres. Et là-haut, bah, vous avez l'air qui se régale, qui galope au sommet. C'est là que la tramontane, si vous voulez, reprend son souffle. Qu'elle construit des imaginaires, mais aussi elle défait les arbres qui sont trop ambitieux. Alors nous on va se retrouver sur les contreforts en fait de ce Lozère, c'était il y a à peu près une semaine et demie. Dans le gîte, on est parti du gîte d'Hugues Paris à Auriac, qui est sur le col de la Loubière. Bon, faut quand même pas s'engueuler avec ses voisins, parce que vous avez à peu près 2-3 habitants au kilomètre carré là-bas. Et donc cet homme-là accompagne les groupes pour recueillir des silences habités. Et c'est donc une terre qui porte des gens, des histoires et puis des sources, on va le voir. On est dans ce parc national des Cévennes. Et donc nous partons avec Hugues Paris en raquette dans la neige à la découverte de ce massif. On retrouvera aussi François Maguigné, puis aussi bien sûr un chien qui nous accompagne.
Bon, on l'a passé devant parce que on a un passage un peu délicat. Ça, on va pas vous faire du ouchoya. Hein. Wow! On va se faire une petite halte face à ce ruisseau quand même. Allez, on va être sympa, on va dire que c'est un mini torrent quoi quand même.
Parce que... oh, c'est un petit ruisseau sur lequel bon, il fluctue pas mal entre l'été et l'hiver en fonction de la fonte des neiges, des oui. pluies. C'est à la fois la faille que fait l'eau au niveau de la neige.
Et en plus, le ruisseau, c'est qu'il sera gagnant, parce qu'il se dit, en fait, dans son fort intérieur, mais de toute façon, cette neige va m'alimenter.
Bien sûr.
Voilà, donc vous pouvez toujours tenter de me recouvrir, je serai le plus fort. Quoi.
Je serai le plus fort, d'autant plus que cette neige, au fur et à mesure du recul de l'hiver, avec le rallongement des journées et le radoucissement de la température, toute cette neige va venir abonder les cours d'eau, ces petits ruisseaux qui vont ensuite, là, se jeter dans le Lot, qui est une rivière, une des rivières importantes du département de la Lozère.
Alors justement, François Maguigné, quand même, parce que j'ai pas eu le temps de vous présenter, hein, vous savez ce que c'est, là, on est en train de marcher joyeusement. Bon, vous êtes un homme de la Lozère depuis longtemps, vous êtes un fin pêcheur, et vous connaissez ces eaux. Alors, quand on parle de ce mont Lozère pourvoyeur d'eau, pour une partie de la France, on va dire, qu'est-ce qui naît ici, sur ce mont Lozère ?
Alors, oui, le mont Lozère est un pourvoyeur d'eau, c'est une véritable éponge, hein, nous avons des tourbières importantes hein, sur le mont Lozère, qui permet d'alimenter tout un réseau de petits ruisseaux, mais... même si la Lozère, dans son ensemble, donne naissance à de grandes rivières, hein, l'Allier, le Lot, la Truyère, le Tarn, la Lozère donne naissance à des cours d'eau, mais n'en reçoit aucun. C'est quand même particulier, il faut le dire.
Ah,
voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, elle avait le nom de Château d'eau de la France, et il devait s'appeler le département des sources, la Lozère, lors de sa fondation de département. Bon, on a retenu le terme de Lozère. Le mont Lozère, lui, en tant que tel, ne donne naissance véritablement qu'au Tarn. Alors, c'est pas rien, quand même.
Ah non.
Le Tarn, tout le monde, tous les Français et les étrangers connaissent le Tarn, qui est une rivière tout à fait symbolique de notre département.
Ils connaissent
notamment
mieux parfois les gorges du Tarn.
Voilà,
que
alors
le département
les gorges du Tarn,
du Tarn,
la plus spectaculaire étant Lozère. Mais le Tarn, né sur le mont Lozère, c'est d'abord un tout petit ruisseau aux eaux d'une limpidité exceptionnelle, Hugues. Hein, quand il serpente dans ces prairies, d'ailleurs où on trouve dans ces tourbières où on trouve la drosera encore, hein, qui est une petite plante carnivore des zones humides. Il est tout à fait sympathique. Juste avant sa rupture, à proximité du hameau de l'hôpital avec ses maisons, ses grosses bâtisses aux belles pierres de granit, avant sa chute sur le pan de Montvert, puis après ce qu'on appelle les petites gorges qui vont jusqu'à Florac, et après s'ouvrent les majestueuses gorges du Tarn.
Alors de ce mont Lozère, Hugues, dévale, on le voit, donc des ruisseaux, des torrents, je veux dire aussi des inondations, des croyances, des révoltes, des loups. Quand on dit terre de contraste, on est en plein dedans, quoi.
Oui, c'est vrai. Les premiers habitants, en fait, de Lozériens ont habité des cavités naturelles, donc des grottes, en fait. Et lorsqu'ils venaient chasser, ils venaient chasser sur les hautes terres du mont Lozère. Et on retrouve encore, aujourd'hui, donc des flèches perdues, ainsi que des éclats de silex qui ont été travaillés. De parcourir le mont Lozère, sachant qu'il y a eu déjà des chasseurs de la préhistoire, on y pense, moi j'y pense.
Et qui nous attendent peut-être derrière, parce qu'il y a encore l'esprit des lieux qui est là.
Oui, parce qu'en fait, comme il y a des chaos granitiques, et ces chaos n'ont pas bougé depuis des milliers d'années, et donc, naturellement, même encore aujourd'hui, lorsqu'il y a trop de vent, lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il y a une situation de climat un peu extrême, ben, quelquefois, on est bien content de trouver ces chaos et de se mettre un peu à l'abri du vent, comme devaient faire certainement autrefois ces hommes-là.
On y va, qu'est-ce qu'on fait là? On continue encore un petit peu ou on se pose hein? Voilà.
Ok, ben
allez. Allez, zou, on y va.
On va franchir le
Rubicon. Allez, là, franchissez, François, le Rubicon local. Floc, floc. Alors là, on va arriver, en fait, presque sur le plateau. Alors, votre chien, il connaît les lieux par cœur. Hein.
Complètement, oula. Complètement.
Comment il s'appelle, c'est Pépère, là?
Toundra.
Alors, parlons aussi un peu de choses qui fâchent ou bien qui enchantent. Bon, on est quand même dans le territoire du Gévaudan. Nous avons les parcs à loups qui fonctionnent bien sûr très bien. Ça a été un des premiers en France, du côté de Marvejols. On se dit que quand même, le loup ici peut trouver le gîte et le couvert.
Ah, alors là, sur le mont
Lozère. Nous écoute-t-il, là?
Oui.
D'où y es-tu?
Il est peut-être quelque part, là, en train de nous écouter. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de temps, il y a une quinzaine de jours, donc il s'est avéré un loup donc, qui est passé sur le mont Lozère.
Incontestablement, de toute façon, c'est des grands voyageurs, c'est des animaux qui aiment l'espace et les espaces sauvages. Donc,
ils traversent les autoroutes, les lignes TGV, etc.
Exactement, ils n'auront de cesse que d'essayer de retrouver ces espaces sauvages pour pouvoir, la nature ayant horreur du vide, pour pouvoir à nouveau donner de l'expansion à leur population.
Oh, bon, elle est gentille, Toundra.
Il faut noter qu'autrefois, il n'y avait pas toute cette forêt.
Ouais.
Donc les gens se perdaient beaucoup plus facilement dans la tourmente.
Il y a moins de repères. Quand on lève les yeux au ciel, on a l'impression que les astronomes ont leur bureau qui est ici. Ça palpite partout. Ça commence à se lever là très doucement. Mais je ne sais pas si c'est ce mont qui attire les étoiles. C'est stupéfiant, quoi.
Oui, on a vraiment des ciels extraordinaires, remplis d'étoiles, peut-être plus là qu'ailleurs. Une chose qui me rappelle, c'est ces grandes traversées qu'on faisait de nuit sur le mont Lozère, sous ces étoiles et sous la pleine lune. Les étoiles, à un moment donné, elles se confondent presque avec les vallées
où il y a aussi toutes ces petites lumières, où on ne sait plus du tout où sont les étoiles. Et, et c'est des moments où on se remet un petit peu en question, on s'intériorise un peu, on se ressource.
Et regardez celle-là, on est en train de se dire qu'elle est peut-être morte depuis des millions d'années, cette étoile, et elle continue pourtant à nous envoyer sa lumière.
Il y a un côté intemporel, où peut-être justement, on parlait de tout à l'heure de l'homme préhistorique, lui aussi l'a vu. Et en regardant toutes ces étoiles, des milliers et des milliers et des millions de gens ont vu ces étoiles aussi.
Et puis là, c'est l'heure du rêve qui commence à intervenir. Enfin, on ne va pas traîner quand même, hein, parce qu'on ne va pas non plus se faire balayer quand même par le vent comme des malades. On n'est plus entre chien et loup, on est plus dans le loup que dans le chien. Et puis ça permet de gamberger, quoi. Enfin, parce que là, les formes vont prendre une autre dimension.
Pour moi, la forêt, je l'accepte telle qu'elle est, et dans son ombre, et dans sa nuit, et je me sens chez moi. Donc cette impréhension, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas une opposition en fait à cet environnement. Je crois qu'il est comme il est, et il faut le prendre comme il est, et le comprendre, le cerner, le pourquoi. Pourquoi d'ailleurs des arbres ont cassé par la neige, pourquoi celui-là plus qu'un autre. Et tout ça en fait fait révéler plein de choses.
On ne connaît pas ce Mont-Lozère. Il faut arriver ici dans quel état d'esprit? J'ai un peu l'impression qu'il faut à la fois faire attention avec la nature qui est quand même forte, puis en même temps, il faut lâcher prise.
Quand on arrive à lâcher prise, quand on est ici, qu'on habite ici ou quand on vient de l'extérieur pour passer un moment de détente, on s'immerge dans le Mont-Lozère, dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça qu'il est important de lâcher prise. On ne revient jamais complètement ignorant quand on revient du Mont-Lozère. C'est ça qui est important. On apprend énormément de choses sur soi, sur les autres, sur son environnement.
Merci à François Maguigné et à Hugues Paris, sans oublier non plus pour son mixage Xavier Pestugia. Je vais être très bon camarade. Il y a plein de cadeaux que vous pouvez offrir. Vous avez par exemple l'abécédaire scientifique pour les curieux de Mathieu Vidard, saison numéro 2. Vous avez Hier Nougaro, Demain Nougayork, un livre et un voyage sonore de Didier Varro, réalisé par Jérôme Boulet. C'est aussi très très bien. Et puis de Frédéric Pommier, tout ça vous le savez, mais je vous le rappelle parce que c'est un petit plaisir aux éditions du Seuil et France Inter. Mots en toc et formules antiques, petite maladie du parler d'aujourd'hui. C'est pas mal non plus pour débuter l'année. Merci à Séverine Bouvard, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Fabrice Lègle qui réalisait aujourd'hui cette émission. Merci à Muriel Pérez qui a choisi les disques. Notre cyberdocumentaliste est Anne Bouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Possibilité pour vous de réécouter cette émission pendant 4 semaines, de la podcaster pendant une semaine. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine avec d'autres sujets. Et demain soir, donc ce sera à 19h54 pour les petits bateaux, là aussi pour cette première de l'année, ce sera la Tulu Montilou. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end, un premier très beau jour de l'année, et dans quelques instants ce seront les liaisons heureuses avec Colomb Schneck. Salut.